Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
NoWatch.fm.
Incredible web shows.
Cette émission vous est proposée avec la participation du fanshop NoWatch. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en août 2012 et c'est l'épisode numéro 93. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on vous explique tout ce qui se passe dans le monde de la technologie, des gadgets, de l'internet. Je suis Patrick Béja et je suis aujourd'hui avec un jeune homme qui nous rejoint dans le Rendez-vous Tech pour la première fois, si je ne m'abuse. C'est Guillaume Contesso de La Voix dans la Tête, donc un camarade No Watcher. Comment vas-tu, Guillaume?
Ça va très très bien, très très bien, merci.
Tu es, c'est vrai qu'on se connaît depuis un moment maintenant, et tu es très au fait de la chose technologique, on va dire. Mais t'as jamais été dans la voix dans la tête. T'as jamais été dans le Rendez-vous Tech.
Donc, ouais, pas trop dans la voix dans la tête. Dernièrement, je parle pas trop, et dans le Rendez-vous Tech, j'ai encore jamais parlé. Non, c'est bête.
C'est bien. Bon, mais en tout cas, tu es un expert technophile dont je suis certain que l'avis sera précieux.
Et ça sera, on va essayer de donner quelques informations.
Oui, exactement. En tout cas, ça va être un épisode intéressant, je pense, pour à peu près tout le monde, parce que il va y avoir un gros sujet sur des questions de sécurité, avec une grosse histoire qui est arrivée à un journaliste qui s'est fait complètement hacker sa vie entière, ce qui a provoqué des discussions importantes sur le sujet de la sécurité. Comment sécuriser ses comptes? Quel a été le problème dont il a été victime? Quelles ont été les parts de participation, enfin de responsabilité en tout cas, des entreprises qui se sont fait hacker par ce qu'on appelle du social engineering, un petit peu plus même, on va vous expliquer ça. On parlera aussi d'autres choses un petit peu plus rapidement. Le nouvel algorithme de Google Search, le procès Apple versus Samsung qui continue avec des petites infos un peu croustillantes et quelques autres choses. En tout cas, moi, je suis heureux d'être dans cette émission aujourd'hui parce que c'était pas gagné. D'une part, parce que j'ai le dos complètement cassé, donc j'étais pas certain de pouvoir être là. J'étais au lit pendant 2 jours la semaine dernière sans pouvoir bouger. Et là, je fais un effort surhumain pour être assis à ma table et enregistrer avec Guillaume. Donc bon, j'y arrive, donc c'est déjà ça de pris.
Bah, je te remercie, Patrick. Je compatis complètement. Il y a quelques semaines, quelques jours avant de partir en Russie en vacances, je me suis moi-même blessé au pied. Ouais. Et sachant que, un, ça fait très mal, deux, que c'est la veille des vacances et que à Moscou et à Saint-Pétersbourg, il faut marcher beaucoup, beaucoup.
Oui, ça ne doit pas être évident. Ouais. Bah, moi, je pars effectivement pour le boulot pendant une semaine en Allemagne, donc ça va être sympa aussi sur un salon. Donc, ça va être cool. Mais bon, ça, c'était la première chose. L'autre chose, ceux qui sont assidus du Rendez-vous Tech en live le sauront, je ne suis toujours pas en mesure de faire un live et je vais devoir porter cette marque de la honte pendant je ne sais pas combien de temps encore, puisque c'est entièrement de ma faute. J'ai mis à jour mon Mac qui me sert dans mon appareillage pour faire des lives, et je l'ai mis à jour en vérifiant que l'un des programmes dont j'avais besoin était fonctionnel sous Mountain Lion, mais pas un autre programme qui est également essentiel. La société qui édite ce programme va corriger le problème à un moment, bientôt, ils sont en train de travailler dessus, mais Dieu sait combien de Rendez-vous Tech sans live on va devoir faire. Moi, ça m'attriste terriblement de pas avoir la chatroom, mais bon, on sera de retour en live bientôt, j'espère. Si vous avez un contact chez Ambrosia Software qui édite Wiretap Anywhere, envoyez-leur un mail et dites-leur « Patrick a besoin de votre logiciel
». Moi, j'ai fait aussi la mise à jour Mountain Lion à l'arrache. Et après, j'ai vérifié que tout fonctionnait. C'était très bien parce que en plus j'avais des épisodes à monter et différentes choses.
Ouais.
Moi j'ai eu la chance, j'utilise peut-être pas le même logiciel que toi, donc.
Bah moi c'est pour le live en fait, pour diffuser le son. J'utilise Wiretap Anywhere qui ne fonctionne plus et donc bref, mon setup ne marche pas. J'essaierai de trouver un autre moyen, mais pour le moment j'ai pas trop eu le temps. Peu importe. On se lance dans l'émission à proprement parler avec le hack d'un journaliste qui s'appelle Matt Hamon, si je ne m'abuse, qui a... Matt Ronan, excuse-moi, oui, tout à fait.
Non, mais moi-même, tout le week-end, j'étais en train de dire Anon. C'était l'habitude de 4chan, sans doute. La mauvaise
c'est
influence
possible.
Des Anonymous. Non, c'est Onan.
C'est Onan, ouais. Alors, je vais expliquer un petit peu ce qui s'est passé. En fait, je vais expliquer en deux étapes. D'abord, ce qui lui est arrivé, ensuite, comment ça lui est arrivé. Il était en train de jouer avec sa fille à la maison, un jour de d'août ensoleillé, et il voit tout à coup son iPhone qui redémarre. Il se dit, bon, un peu bizarre, l'iPhone, l'écran s'éteint. Il se dit, bon, ça peut arriver qu'il y ait un bug, un truc, il s'en inquiète pas trop. Quelques minutes plus tard, il voit son iPad qui s'éteint aussi. Là, il se dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Il s'inquiète, il va voir son Mac. Son Mac ne marche plus. Son Mac commence à voir ses données disparaître.
En fait, il arrive sur le Mac et il voit qu'on lui demande un code de PIN de 4 chiffres, qu'il ne connaît pas.
C'est ça.
Qui permet éventuellement d'arrêter
ce qui s'appelle le remote wipe, qui est l'effacement complet de la machine. Effectivement. Mais lui, comme il ne connaissait pas le code, effectivement, son Mac s'efface sous ses yeux. Et donc évidemment à ce moment-là il s'est rendu compte qu'il y avait un truc horriblement horrible qui était en train de lui arriver et après ça il a vu son compte Twitter et le compte Twitter de Gizmodo chez qui il travaillait il y a quelque temps commencer à tweeter du spam en gros
et des insanités hein, des propos racistes, voilà. Homophobes, etc.
Donc évidemment là il avait compris qu'il s'était fait complètement hacker. Et il a passé, d'une part, un bon moment à essayer de trouver un moyen même de s'excuser. Donc, il a recréé un autre compte Twitter, quelque part, avec le Mac de sa femme, d'après ce dont je me souviens. Et il a expliqué aux gens que c'était pas lui qui tweetait ces choses-là. Il a contacté Gizmodo pour dire qu'il y avait un problème. Gizmodo a exclu son accès à leur compte. Bref, il a compris qu'il s'était fait hacker. S'en est suivi une bonne semaine de recherches, d'explications, de reportages, de discussions sur la sécurité. Ce qui est le plus intéressant dans cette histoire, c'est comment il s'est fait hacker. Parce que il a effectivement créé un nouveau compte Twitter, il a discuté avec des gens, et sur ce compte Twitter, la personne qui l'avait hacké l'a contacté, lui a donné des informations lui prouvant que c'était bien lui qui l'avait hacké, ou en tout cas qu'il faisait partie du groupe qui l'avait hacké. Ils ont commencé à discuter. Quand Matt a accepté de ne pas le poursuivre en justice, le hacker lui a expliqué comment ça s'était passé. Et ça a révélé une faille, non pas technique, mais une faille... social presque, enfin c'est une petite astuce pour pouvoir hacker à peu près n'importe quel compte Apple.
Alors oui. Bon, c'est un peu raccourci.
Je raccourcis parce que on va pas expliquer tout en détail, mais vas-y si tu veux dire quelque chose.
Ben, le hacker en question s'appelle Phobia et maintenant il a plein de followers, je crois.
Ouais.
Moi, ce qui m'a étonné, c'est que déjà, c'est qu'il soit assez couillu pour aller contacter la victime. Bon, d'une part, en fait, la victime a été choisie par hasard, uniquement parce qu'il avait un nom Twitter qui était de 3 caractères, Matt,
c'est
M-A-T. C'était en fait uniquement pour cela qu'il a été ciblé.
Et le hacker, entre parenthèses, a 19 ans. Il travaille avec quelqu'un d'autre. Ouais. Enfin, il travaille. Ils sont deux personnes à avoir hacké le truc. Et il n'a que 19 ans.
Et d'après Phobia, c'est justement son comparse qui a pris l'initiative d'effacer à distance les devices de Matt. Ce qui, dans une logique de hacker, d'ailleurs, fait sens. Hein.
Bien sûr. L'idée était que il ne puisse pas utiliser son ordinateur pour récupérer son compte et faire sortir le hacker de ses accès.
Ouais. Je vais faire une dernière digression.
Vas-y.
En fait, quand ça s'est produit un vendredi soir, il jouait avec sa petite fille qui a moins de 1 an. Or, justement... sur son laptop, il y avait toutes les photos, les vidéos de la naissance de sa fille, de la première année. Et il n'avait pas fait de sauvegarde depuis 1 an. Et c'est entre autres pour cela que son effroi était absolument terrible quand il voyait au fur et à mesure ces données qui s'effaçaient.
Ouais. Et effectivement, ça doit être un sentiment terrible. C'était toutes les photos de la naissance de sa fille et de sa première année qu'il perdrait définitivement plutôt. Ouais. Entre parenthèses, bonne nouvelle, il a réussi à les récupérer.
Oui, a priori, les personnes d'Apple, AppleCare a réussi à récupérer les données.
Exactement.
C'est déjà ça.
C'est déjà pas mal. Mais alors, pour expliquer comment ça s'est passé, c'est vraiment intéressant. C'est une histoire un peu compliquée, donc si je me trompe, Guillaume, corrige-moi, et bien sûr, dans les commentaires de l'article, vous pourrez nous dire si on a fait des petites erreurs, mais en fait, les hackers ont une méthode, enfin, les hackers qui ont fait ce hack spécifiquement, une méthode très intelligente et très, presque un peu surprenante. D'une part, ils connaissaient l'adresse email de ce jeune homme, de Matt, qui était matthonan@mi.com, si je ne me trompe pas. Donc ils avaient cette adresse parce que c'est une adresse qui est publique, avec laquelle ils communiquent, etc.
Oui, je crois qu'en fait, c'est à partir du compte Twitter, ça a renvoyé sur le site personnel de Matt Honan.
Où il avait l'adresse de contact.
Ils ont donc eu l'adresse, ils ont eu l'email de contact qui était un mi.com. Mm-hmm. À partir de ce moment-là, ils savaient que c'était un compte Apple. Donc on pouvait le hacker avec différents moyens.
Alors pour hacker le compte Apple, justement, ils ont appelé Amazon.
Oui.
Ils ont appelé Amazon et ils ont dit je voudrais. C'est compliqué, hein, mais suivez-nous. Ils ont appelé Amazon, ils ont dit je suis Matt Honan, voilà mon adresse. Et mon adresse email avec l'adresse mi.com et ils avaient son adresse physique ou ils l'avaient pas, je sais plus. Je crois que c'était son adresse physique qu'ils avaient aussi.
Alors non, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une procédure chez Amazon qui te permet par téléphone, à partir du moment où tu prouves ton adresse mail, hein, j'ai mon compte, j'aimerais que vous
ajoutez
rajoutiez
une adresse,
carte de crédit à mon compte Amazon.
C'est ça, voilà. Donc il a ajouté une carte de crédit à son compte Amazon, mais ce dont j'étais pas sûr, c'est qu'il n'avait besoin que de l'adresse email. Mais bon, effectivement, son nom et son adresse email, il rajoute une carte de crédit par téléphone. La carte de crédit, bien sûr, appartient au hacker. C'est une carte de crédit bidon qu'ils ont créée pour l'occasion.
Ouais.
À ce moment, les hackers raccrochent, rappellent Amazon, et bien sûr, ils tombent sur quelqu'un d'autre, et ils disent « J'ai perdu l'accès à mon compte, j'ai besoin de le récupérer. » La procédure chez Amazon est de demander l'adresse email, le nom, bien sûr, et les 4 derniers chiffres de la carte de crédit. Donc, à partir de, comme ils ont ajouté eux-mêmes une carte de crédit, ils ont pu récupérer, bien sûr, ils connaissaient ce numéro de carte de crédit, donc ils ont obtenu l'accès au compte Amazon. C'était la première étape. Donc, une fois qu'ils ont eu l'accès au compte Amazon, ils ont eu toutes les informations sur Matt, son adresse, sa véritable carte de crédit, etc., etc. Avec ça, ils appellent.
Non, justement, l'étape, c'est que à ce moment-là, ils n'ont pas encore accès au compte Amazon. Ils ont d'abord demandé à avoir une nouvelle carte de crédit. Et après, ils ont demandé un changement d'adresse. J'ai plus accès à mon compte email. Donc, envoyez-le-moi sur cette adresse-là. De toute façon, mon compte, c'est bien. Vous voyez que j'ai tel email et telle carte de crédit. Et donc, c'est sur une autre adresse mail qu'ils ont reçu.
Le reset du mot de passe, c'est vrai. J'essaye de faire un petit peu plus court parce que c'est vrai qu'on va pas rentrer dans tous les détails non plus, mais effectivement, ils obtiennent, une fois qu'ils ont prouvé, entre guillemets, leur identité à Amazon avec cette carte de crédit qu'ils venaient de rajouter, ils obtiennent l'accès au compte avec un password reset qui a envoyé un nouvel email qu'ils ont indiqué également. Avec ce nouvel email, donc, ils ont accès au compte Amazon. Et sur ce compte Amazon, il y a toutes les infos de Matt. Donc, son adresse, son et surtout, sa véritable carte de crédit. Pourquoi c'est important, cette véritable carte de crédit? Parce que quand ils appellent Apple pour dire « j'ai perdu mon accès à mon compte Apple », Apple va demander, ou en tout cas à ce moment-là, demandait plusieurs informations dont l'essentiel, qui était difficile à obtenir, était les quatre derniers chiffres de la carte de crédit, de la véritable carte de crédit qu'il utilisait sur ce compte. Et bien sûr, sur tous les services en ligne, les cartes de crédit, les numéros entiers des cartes de crédit ne sont pas affichés parce qu'il faut protéger quand même le numéro complet, mais les quatre derniers chiffres sont affichés pour que vous puissiez savoir de quelle carte de crédit il s'agit. Et c'est cette information précise que demandent les opérateurs d'Apple pour redonner accès au compte. Alors ça, et les adresses e-mail et quelques autres informations qui sont faciles à obtenir. La raison pour laquelle ce sont ces quatre derniers chiffres qu'on utilise, c'est que, si ça c'est moi qui me souviens vaguement du sujet, les quatre derniers chiffres sont ceux qui changent véritablement. Les quatre premiers, par exemple, c'est pour la banque ou un certain... C'est des choses beaucoup plus fixes. Donc, ça servirait à rien de donner juste les quatre premiers. C'est vraiment les quatre derniers qui sont importants. Bref.
Je crois de mémoire, mes vagues souvenirs de hacking il y a très longtemps, quand j'étais encore,
jeune et svelte et beau.
Voilà. C'est que je pense que le dernier chiffre étant plus, c'est un checksum.
C'est ça.
Donc, quand tu, le dernier chiffre, de toute façon, tu peux le calculer à partir des autres.
Voilà.
Voilà.
Donc, à ce moment, ils ont obtenu l'accès au compte Amazon et obtenu l'accès au compte Apple, puisque Apple ne demande... l'information principale, c'est les quatre derniers chiffres de la véritable carte de crédit qui est dans leur registre que les hackers avaient depuis leur accès au compte Amazon. À partir de là, ils ont eu accès à l'email Apple et une fois qu'ils ont eu accès à l'email Apple, ils ont pu... engager une procédure de renouvellement de mot de passe sur le compte Gmail de cette même personne. C'est-à-dire que quand on va sur Gmail, on demande à renouveler un mot de passe, il va vous l'envoyer sur votre adresse email de secours, qui était évidemment pour Matt l'adresse Apple, l'adresse atmi.com. Donc une fois qu'ils ont engagé la procédure de récupération de mot de passe de Gmail, la confirmation est arrivée sur l'email d'Apple auquel ils avaient accès. Et donc, ils ont eu accès aussi au compte Gmail. À partir de là, ils avaient accès à l'intégralité de sa vie numérique. Évidemment, dès qu'ils ont eu accès au compte Apple, ils ont commencé à supprimer les informations, enfin, à effacer complètement l'iPhone et l'iPad, et bien sûr, le Mac. Donc, c'est à ce moment qu'il a vu que ça se produisait. Et ils ont, pour qu'ils ne puissent pas empêcher leur hack... Et ils ont pu avoir accès, donc, ensuite, une fois qu'ils avaient accès au compte Apple et au compte Gmail, puisque tous les autres comptes, je parle de Twitter, Facebook, etc., étaient liés au compte à l'un ou à l'autre, ils avaient accès à tout, puisqu'il suffisait de faire une procédure de réinitialisation de mot de passe pour que ils reçoivent dans ce qui était désormais la boîte email à laquelle ils avaient accès, le lien à suivre pour renouveler le mot de passe.
Ouais, juste pour... Pour resituer pour nos auditeurs, le but c'était de capturer le compte Twitter. Pour capturer le compte Twitter, il fallait resetter le compte Google. Pour accéder au compte Google, il fallait passer par iTunes, le compte Apple. Et le meilleur moyen pour accéder au compte me.com, c'était via un hack de social engineering sur Amazon.
Exactement. Donc, vous voyez le nombre d'étapes qu'il a fallu suivre. Et il faut préciser quand même que Matt est complètement conscient qu'il a une grosse responsabilité de ce hack. Il le dit clairement et il le dit très honnêtement et très ouvertement. C'est en partie de sa faute s'il s'est fait hacker parce que il est au courant des problèmes de sécurité et il n'avait pas sécurisé ses accès et surtout, il avait cette sorte d'accès circulaire avec lequel il donnait l'accès au compte Gmail avec son compte Apple Et il avait, son compte Apple était public, et j'imagine son compte Gmail était public aussi. Il y avait une histoire, peut-être qu'on je me souviens plus exactement, mais c'était genre l'un des emails n'était pas tout à fait public, mais l'adresse de sécurité de l'un des deux était indiquée avec des petites étoiles, vous savez, genre M étoile 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 N at étoile étoile l.com. Et évidemment, il avait pu déduire quelle était l'adresse de l'un des comptes, l'adresse de sécurité de l'autre compte, en voyant ces indications. Puisqu'on indique souvent, on utilise souvent à peu près les mêmes noms, c'est pas très difficile à déduire.
Donc, oui, en fait, tu as un certain nombre de choses qui rentrent en compte. D'une part, bon. Je pense l'une des choses sur laquelle il s'en veut le plus, enfin au moment du hack, hein, c'est de pas en fait sauvegarde. C'est vraiment le truc de base.
Tout à fait, oui.
Après, il y a le problème effectivement de tout concentrer. Mais c'est tentant et tout, on le fait tous parce que c'est plus simple. On a un compte, par exemple Gmail ou un autre, sur lequel tout ce qui est Amazon, iTunes, tout va pointer là-dessus. C'est par là qu'on va tout gérer. Après, l'autre chose, c'est que on ne maîtrise pas en tant qu'utilisateur ce qui va être rendu public. Donc, sur un compte Amazon, effectivement, Amazon considère que les 4 derniers chiffres de la carte bleue ne sont pas significatifs, donc ils sont exposés quand on accède à la console. Par contre,
c'est le cas d'à peu près tout le monde.
Ces 4 chiffres sont significatifs pour récupérer un mot de passe. Et encore là, les hackers ont profité que normalement on te pose des questions personnelles, quel est l'âge de ta mère et la couleur de ton chat. Et en fait, eux, ils disent ah non mais je me souviens plus de la réponse. Mais vous voyez, ça c'est mon adresse email, là c'est ma carte bleue, donc faites le reset. Ouais. En fait, les mecs savaient que dans les procédures hotline chez Apple, mais de la même manière, ils se vantent de connaître pour d'autres services, pas que Amazon, pas que Apple, mais pour d'autres, mais sans les spécifier. Dans toutes les procédures de hotline, tu as un certain nombre d'étapes et tu peux bypasser, tu peux, si tu poses des bonnes questions, si tu
réponds aux bonnes questions et si tu... Alors le problème là, c'est que évidemment, c'est selon les procédures strictes de sécurité, ils n'auraient pas dû pouvoir, les hackers n'auraient pas dû pouvoir obtenir l'accès s'ils n'avaient pas les réponses aux questions de sécurité, par exemple, ou ce genre de choses. Mais le problème, c'est que pour la plupart des gens, il y a une énorme contrainte, en tout cas un équilibre à trouver entre sécurité importante et facilité d'utilisation, parce que si quelqu'un a effectivement oublié son mot de passe et qu'il a oublié les informations, enfin on peut tout à fait imaginer que quelqu'un ne connaisse pas toutes les informations qui sont nécessaires pour la question de sécurité, quel email de sécurité on avait mis il y a 3 ans et dont on ne sert plus depuis longtemps, machin. Donc quand on a un type comme ça au bout du fil et qu'on fait partie d'Apple ou d'Amazon, si le type nous dit ah mais merde, j'ai vraiment besoin d'avoir un accès à mon truc, je sais plus, et bon, on doit en recevoir, les types ils doivent en recevoir des dizaines par jour. Forcément, au bout d'un moment, on se dit.
De toute façon, rien que pour préparer cette émission, il se trouve que j'utilise très peu Skype, donc il a fallu que je reset mon mot de passe. Et là, un truc tout bête. Et de mémoire, parce qu'avant j'ai travaillé dans une hotline, enfin, un peu plus élevé, c'était un service desk. Les mots de passe, c'est plus de 50% des appels entrants.
C'est sûr, ouais.
Déjà en entreprise, donc après, imagine pour un service client, c'est toujours le plus gros volume des appels entrants. C'est j'ai pas les mots de passe, je n'arrive pas à accéder à ma console.
C'est ça. Donc bon, en l'occurrence, ça a amené Amazon et Apple, et j'espère d'autres, à revoir leurs procédures dans ce cas-là. Ce qui est clair, c'est que aucun système de sécurité n'est entièrement sûr. Et là, on en a encore une fois la preuve. On espère que cette méthode sera désormais sécurisée grâce à ce problème qui a été mis à jour par ce hack très très public. Mais il est évident qu'il y aura sans doute d'autres problèmes un jour. Enfin, c'est plus qu'évident, c'est certain. Et qu'il y aura d'autres problèmes un jour chez Apple, Amazon ou d'autres.
Oui, mais une des choses, il n'y a pas de risque zéro, il y aura toujours une faille. Enfin,
c'est sûr.
Quand j'étais jeune et beau et que j'étais des plombeurs, quand j'enlevais la protection logicielle, je savais que le jeu quand tu fais de la sécurité, c'est d'être suffisamment, de mettre suffisamment d'obstacles pour que le pirate se lasse.
C'est ça, exactement. Et alors justement,
c'est purement le principe, mais à terme, Il y a toujours, tous les systèmes sont faillibles à un moment ou à un autre.
Eh ben, pour essayer de lasser les pirates autant que possible, ou en tout cas pour essayer de faire autant qu'on peut pour protéger nos comptes et nos informations, je te propose qu'on fasse un petit passage en revue de ce qu'il est possible de faire, d'une part des bonnes pratiques et de ce qu'il est possible. Enfin, à vrai dire, les bonnes pratiques, on les connaît. Hein. Mettez des mots de passe compliqués.
Les rappeler, hein, faut les rappeler.
Bien sûr, mais bon, c'est classique. Mettez des mots de passe compliqués, n'utilisez pas le même mot de passe partout. Et ça, c'est la base de la base. Le truc le plus frustrant et le plus idiot, c'est de mettre un mot de passe simple ou utiliser le même mot de passe partout. Le truc, c'est que là, en l'occurrence, ce pauvre Matt, même s'il avait eu le mot de passe le plus compliqué de l'histoire, ça lui aurait pas servi à grand chose. Donc, qu'est-ce qu'il aurait pu faire en dehors de la question de la sauvegarde? Et encore, on peut en parler parce que j'ai un petit truc à vous proposer. Mais qu'est-ce qu'il aurait pu faire pour protéger les choses? D'une part, la première chose, à mon sens, ça aurait été d'utiliser le Google Authenticator. J'en ai parlé dans Upload la semaine dernière. C'est une petite application qui vous permet, une petite application sur téléphone mobile, Android ou iPhone, qui vous permet d'avoir je vais remonter un petit peu plus haut. L'un des meilleurs moyens de sécuriser une adresse email, c'est d'utiliser la sécurisation à double facteur. C'est-à-dire qu'il faut utiliser, pour avoir accès à un compte, une chose qu'on connaît et une chose qu'on a. La chose qu'on connaît, c'est notre mot de passe. La chose qu'on a, ça peut être, en l'occurrence, son téléphone ou son numéro de téléphone avec un SMS qu'on va recevoir sur son numéro de téléphone, ou ce fameux authenticator qui va être prendre la forme soit d'un petit objet physique avec un petit écran LCD. Quand on appuie sur le bouton de l'écran LCD, ça vous affiche un code numérique qu'il va falloir rentrer, un code numérique qui change tout le temps, qu'il va falloir rentrer pour accéder au compte, ou alors pareil, sur le téléphone, une petite app qu'on lance qui vous donne en fonction de l'heure précise un code qu'il va falloir rentrer pour accéder au compte. Le truc, c'est que pour activer cette authentification double facteur sur Google, d'une part, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cette option de double facteur d'authentification. À ma connaissance, il n'y a que Google. Ça m'étonnerait pas qu'Apple sorte un truc similaire bientôt. Mais Google, même chez Google, pour la mettre en place, c'est quand même hyper compliqué. Je sais pas si tu l'as déjà fait, toi, Guillaume.
Non, j'ai pas utilisé.
Tu l'as pas fait.
Enfin, j'ai utilisé d'autres systèmes similaires, entre autres, professionnellement. Ouais.
Eh ben écoute, moi je l'ai fait chez Google et ça intéressera nos auditeurs puisque c'est le truc qu'ils peuvent sécuriser. Il y a beaucoup de gens qui sont sur Gmail. C'est un petit peu une galère à mettre en place, mais c'est possible. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est une galère. Quand on l'active, il faut attacher à notre compte un numéro de téléphone. Il va vous envoyer un SMS et ce SMS va contenir un code que vous rentrez dans l'interface de compte pour confirmer que c'est bien votre numéro de téléphone. Une fois que ça s'est fait, très bien, ça fonctionne. Et à chaque fois que vous allez vous connecter d'un ordinateur qu'il ne connaît pas, ou même d'ordinateur qu'il connaît tous les quelques temps, il va vous renvoyer un SMS pour vérifier que vous êtes bien la personne qui a accès au compte, qui essaye de s'y connecter. Donc, vous comprenez que si quelqu'un qui a réussi à deviner, par exemple, votre mot de passe, je sais pas, au Canada, essaye de se connecter à votre compte alors que vous êtes en France. Si un hacker canadien essaye de le faire, il va essayer de se connecter. Vous allez recevoir, vous, sur votre téléphone, le SMS. Et vous allez, lui ne va pas avoir ce SMS, donc il va pas pouvoir se connecter à votre compte. Pareil avec l'application Authenticator. Quand vous essayez de vous connecter, l'interface de Google va vous demander de rentrer le chiffre qui apparaît sur l'App Authenticator en plus de votre mot de passe. Si nous prenons notre fameux hacker canadien qui s'appelle Caribou, Caribou, il va pas réussir à se connecter parce qu'il a pas l'Authenticator là. Donc vous voyez que l'Authenticator ou le facteur le double facteur d'authentification va être très utile pour éviter que quelqu'un qui n'a pas, même s'il devine votre mot de passe, ne puisse pas se connecter à votre compte. Si notre ami Matt avait fait ça, il aurait pu éviter une partie de ces problèmes parce que les gens n'auraient pas pu accéder à son compte, même s'ils avaient demandé une remise à jour du mot de passe. Ça, c'est la première étape. Le problème, c'est que jusque-là, tout va bien avec l'authenticateur. C'est un peu compliqué à mettre en place, mais bon. Le problème, c'est qu'il y a plein d'applications qui ne peuvent pas, dans leur interface, avoir l'authentificateur, ce fameux chiffre que vous devez rentrer en plus du mot de passe. On pense à vos clients mail classiques. Si vous utilisez un client mail sur Windows ou Mac, il n'y a pas d'interface pour entrer le chiffre d'authentification à chaque fois. Pareil, non, si vous utilisez
plus,
Google Reader,
à chaque
par
fois
exemple.
Que tu allumes ton iPhone, il faut remettre ton téléphone portable, il faut re-authentifier toutes tes applications, c'est pas possible.
Alors, il est possible de dire cet ordinateur ou cet appareil, il est sécurisé, c'est bien le mien, donc on peut ne pas demander le numéro de l'authentificateur pendant 30 jours ou pour toute la vie. Donc, si vous le faites sur 5-6 ordinateurs, 5-6 machines qui vous appartiennent ou que vous connaissez, ça vous sécurisera évidemment contre un hacker qui est contre Caribou, le hacker canadien. Donc bon, ça peut aider quand même à simplifier les choses à ce niveau-là. Mais par contre, les applications comme le mail ou par exemple les lecteurs de flux RSS si vous utilisez Google Reader ou ce genre de choses ne vont pas avoir cette interface et donc il va falloir dans l'interface Google attribuer un mot de passe long unique qui va ne servir qu'à cette application que vous allez devoir rentrer à la place de votre mot de passe normal. Et vous demandez vous-même ce mot de passe unique dans l'interface de Google et ça va vous permettre de donner accès à cette application spécifiquement à votre compte. Le problème, c'est qu'il faut le faire pour toutes les différentes applications. Moi, en l'occurrence, entre le mail et mon lecteur de flux RSS Reader sur iPhone, iPad et le Mac et d'autres trucs sur le PC, j'ai dû en faire une dizaine. C'est pas la fin du monde, mais à demander à faire à Monsieur Tout le Monde, c'est quand même une vraie tannée. Donc, c'est le problème. Mais c'est, à mon sens, quelque chose que j'encourage vraiment tous ceux qui nous écoutent à faire, parce que vous êtes un petit peu technophile, vous aimez la technologie et vous vous y connaissez un tout petit peu. Ça va vous prendre une demi-heure, une heure à mettre en place, mais une fois que vous aurez mis ça en place, a priori, votre sécurité sur votre compte Gmail va être multipliée par 100, par 1000, par un million même. La sécurité avec un authentificateur de ce type-là, il y a plein de sociétés qui l'utilisent, hein, de Blizzard ou Steam, notamment utilisent un truc un petit peu similaire, des doubles facteurs d'authentification.
Beaucoup d'entreprises, c'est en interne.
Donc, ça vous met autant en sécurité qu'il est possible de l'être, on va dire. Hein, je pense que tu es d'accord, hein, Guillaume, c'est vraiment le truc à faire pour la sécurité.
Oui. D'accord. Maintenant, le problème, c'est que pour l'utilisateur, c'est parfois trop contraignant. Et l'autre alternative, mais sans doute tu y pensais aussi, c'est tout simplement de décorréler ses comptes, de pas avoir tout qui arrive dans la même boîte mail pour pas risquer que tout, en ayant accès à un compte, son compte public justement, bah, qu'on puisse se retrouver
Amazon, le truc,
iTunes,
c'est
que sais-je encore.
C'est-à-dire qu'effectivement, tu pourrais dire, il vaut mieux pas utiliser le même compte email, utiliser plusieurs comptes email pour différents endroits, histoire que s'il y en a un qui se fait, mais c'est infernal. T'imagines si tu as 4-5 comptes email différents, c'est un petit peu une tannée de devoir les checker tout le temps.
Non, parce que justement, tu mets sur ces comptes spécifiques uniquement ton relevé iTunes, tes transactions Amazon, et tu peux les lier éventuellement avec ton.
Tu vois, c'est qu'on arrive tout
mais
de suite.
De toute façon, il n'y a pas d'autre.
Disons que moi, le truc que je recommanderais, oui, c'est d'avoir plusieurs comptes email, mais peut-être avoir un compte super sécurisé dans lequel on fait arriver un ou deux ou trois comptes super sécurisés, disons, ou dans lesquels on fait arriver la plupart des choses, mais au moins être sûr que celui-là est très sécurisé, avec un authentificateur, par exemple.
À la limite, tu peux avoir ton compte public que tout le monde connaît.
Oui, c'est possible.
Lui est redirigé vers un autre compte qui est secret, qui est beaucoup plus sécurisé.
C'est possible.
Qui lui agrège toutes tes informations, toutes tes sources.
Alors, une autre solution, ça c'est la question des emails. Moi je dis vraiment Gmail avec Authentificator, c'est la meilleure solution. Peut-être avec deux ou trois autres comptes à côté si vous êtes un petit peu parano. Mais déjà, disons que pour que quelqu'un réussisse à avoir accès à votre compte Gmail qui a un authentificateur, faut vraiment qu'il vous en veuille ou qu'il vous ait targeté. Ou évidemment, ça peut arriver et on peut se faire écraser en traversant la rue. Hein. Je veux dire, on est à l'abri, on n'est jamais complètement à l'abri de rien. Mais c'est un facteur de sécurisation déjà assez satisfaisant, on va dire. N'est-ce pas?
Oui.
L'autre chose, c'est tous les mots de passe qu'on utilise sur tous les comptes qu'on connaît. La tentation est très forte de dire « je vais utiliser à peu près le même » ou « un petit peu similaire ». L'une des choses qu'on peut faire pour remédier à ce problème, c'est d'utiliser LastPass. LastPass, il y a plusieurs systèmes de gestion de mots de passe, des choses comme OnePassword ou d'autres. Mais LastPass est considéré par la plupart des spécialistes du domaine, et notamment Steve Gibson de This Week, Security Now, qui est un podcast du réseau Tweet de Léo Laporte. Steve Gibson avait fait une étude assez précise de LastPass il y a quelques temps et avait conclu que c'était vraiment la meilleure sécurité qu'on puisse avoir pour les gestionnaires de mots de passe. Alors vous allez me dire, gestionnaire de mots de passe, machin, à quoi ça sert? Le truc, c'est que si vous avez un gestionnaire de mots de passe qui va retenir tous les mots de passe de vos différents comptes de réseaux sociaux, de commerce électronique, etc., vous allez pouvoir utiliser des mots de passe vraiment complexes que même vous n'aurez pas besoin de retenir. Par exemple, vous avez un générateur de mots de passe de 16 caractères avec des lettres, des chiffres et des caractères spéciaux générés aléatoirement. LastPass peut faire ça pour vous. Comme LastPass les remplit à peu près bien généralement.
Avec des caractères qu'on ne savait même pas qu'ils existaient.
Par exemple, vous allez pouvoir avoir des mots de passe hyper sécurisés. Donc, ils ne seront pas du tout sensibles aux attaques des hackers, a priori. Et en plus, vous allez pouvoir avoir des mots de passe différents à chaque fois. Donc, même si un hacker récupérer un mot de passe sur Amazon, par exemple, comme votre mot de passe sera différent sur tous les autres sites, il ne sera pas utilisable. Le truc, oui, il faudra changer votre mot de passe Amazon, mais il ne pourra pas utiliser votre mot de passe sur tous les autres sites, ce qui serait le cas si vous aviez utilisé password 123 sur tous les sites, ou même si vous aviez un mot de passe un peu compliqué que vous utilisiez partout. Donc LastPass, et en plus LastPass peut lui aussi être sécurisé avec un authentificateur Google. Donc c'est vraiment quelque chose de très sécurisé. Évidemment, LastPass est un poil, là encore, c'est un petit peu compliqué à utiliser. Parfois, il faut que vous alliez fouiller dedans pour retrouver le mot de passe que vous vouliez parce qu'il n'a pas repéré que vous étiez sur telle page et sur tel compte. Et donc, il va vous demander, il vous mettre le mauvais mot de passe ou pas vous mettre de mot de passe du tout parce qu'il pré-remplit les choses. Mais il vaut mieux ça que les problèmes potentiels que vous pourrez avoir si vous n'êtes pas suffisamment sécurisé, comme l'a prouvé le Epic Hack de Matt. Mmh. Tu utilises, toi, ce type d'outil, Guillaume?
Eh bien, effectivement, je n'utilise pas LastPass, je suis habitué en fait à générer plein de mots de passe très longs avec des moyens mnémotechniques, à mon souvenir. Ouais. Alors, en termes de sécurité brute, c'est surtout la longueur du mot de passe qui compte.
Ouais.
Contre une attaque en force brute, je veux dire. Et donc moi, c'est vrai que j'ai développé depuis des années des moyens mnémotechniques. Donc je fais facilement des mots de passe de 16 caractères avec des chiffres, des lettres, des caractères accentués et autres, dont je me souviens, qui ont pour moi un sens et que sans doute seul moi peut connaître.
Ouais.
Bon, c'est vrai que moi j'ai l'habitude depuis un moment, mais sinon, c'est vrai que j'étais tenté, j'ai failli le prendre. En plus, là, il y a eu des mises à jour sur LastPass pour encore d'autres facteurs de sécurité, des bidouilles. On ne va pas rentrer dans les détails, mais il est encore plus secure maintenant qu'il ne l'était déjà.
Disons que c'est pas l'interface utilisateur la plus merveilleuse que vous verrez de votre vie, mais par contre, au niveau de la sécurité, c'est des gens qui savent ce qu'ils font. Donc, si jamais ne prenez pas ça comme une incitation à ne pas utiliser de mot de passe compliqué, mais si jamais vous avez le choix entre un petit mot de passe avec plusieurs caractères spéciaux, disons de 6 ou 7 ou 8 caractères même, et un mot de passe de 25 lettres, mais juste avec des lettres normales, choisissez le deuxième, parce que il y avait un comique sur Internet qui expliquait avec beaucoup de justesse que des mots de passe très très longs étaient parfois assez faciles à retenir, alors que ces mots de passe de 8 caractères un peu compliqués étaient impossibles à retenir. Par exemple, si vous avez une phrase qui a une signification pour vous, je sais pas moi, je prends, ah bah, on parlait de Caribou, le hacker canadien. Par exemple, si vous faites de cette phrase Caribou le hacker canadien un mot de passe, c'est super long et c'est vraiment un truc assez sécurisé, mais au moins vous pourrez vous en souvenir. Entre parenthèses, n'utilisez pas Caribou le hacker canadien, hein, c'est pas une bonne idée, on vient d'en parler à quelques dizaines de milliers de personnes dans l'épisode. Mais ce genre de choses, c'est peut-être plus simple à utiliser pour vous que un mot de passe qui serait AB12 E accent aigu dièse dièse point d'exclamation quoi.
Ça me rappelle il y a longtemps, dans une entreprise, il y avait quelqu'un avec qui je travaillais. Et il avait toujours des problèmes à se souvenir de ses mots de passe. Et en fait, il mettait toujours le nom de sa petite amie du moment, mais il en changeait souvent. Et donc, il avait un grave problème à ce niveau-là.
Effectivement, le pire truc à faire, bon, au-delà de ABC123 ou Password, qui sont les mots de passe les plus communs, c'est à peine croyable, mais c'est pourtant le cas. La chose à ne pas faire, c'est d'utiliser des dates d'anniversaire, des noms de membres de la famille, etc., etc. Dernière chose sur cet énorme sujet sécurité Internet dont je voudrais parler. Donc, on a vu comment sécuriser un compte mail, on a vu comment avoir des mots de passe sécurisés. Maintenant, voyons comment archiver vos données importantes et même toutes vos données. Là, il n'y a pas de secret. Généralement, ça coûte un petit peu d'argent. Mais c'est comme une assurance. C'est un petit peu pénible quand on la paye, mais le jour où on a un problème, on est vraiment, vraiment heureux de l'avoir fait. Alors, il y a des systèmes de backup locaux. L'un des plus connus est le
Time Capsule d'Apple. Hein.
Voilà. Le Time Capsule d'Apple qui automatise un petit peu ça si vous avez un Mac. Je crois qu'il y a un système un peu similaire dans Windows 7. Oui. Moi je l'utilise pas, pas pour une raison que je vais détailler un petit peu plus tard. Mais il y a un système similaire dans Windows 7 qui fonctionne certainement très bien. Il suffit d'avoir un disque externe connecté à votre machine et les archives se font, ou un disque réseau, tout à fait. C'est le cas de Time Capsule. Si vous voulez activer ce genre de choses, c'est vraiment pas très compliqué. Il suffit de le faire et ça archivera vos fichiers importants automatiquement sans que vous n'ayez à vous en soucier. Le truc, c'est que si votre maison brûle, vous n'avez plus votre copie en local. La copie en local, c'est bien si votre ordinateur grille ou votre disque dur grille. Je dis si votre maison brûle, c'est aussi le cas si quelqu'un vient vous cambrioler. Peut-être qu'ils prendront le disque dur réseau ou le disque dur externe avec. Donc, il est assez bon d'avoir aussi une copie distante. Et heureusement, on a inventé un truc super intelligent qui s'appelle Internet et qui nous permet d'avoir des connexions réseau facilement avec le monde entier. Et à partir de là, il y a différentes sociétés qui ont proposé des services qui vous permettent d'archiver vos données sur leur serveur. En l'occurrence, il y a un service qui est excellent, qui s'appelle Carbonite, que j'utilise. Carbonite, c'est A-R-B-O-N-I-T-E, et qui archive toutes vos données. Vous pouvez choisir ce que vous allez archiver ou pas. Par défaut, il n'archive pas les vidéos, par exemple, mais vous pouvez lui demander d'archiver spécifiquement certaines vidéos. Il n'y a pas de limite de de taille et il va archiver sur ses serveurs toutes vos données pour que vous puissiez y avoir accès d'un petit peu partout d'une part et que vous puissiez restaurer ces données si vous perdez votre appareil. Et évidemment, quand on parle de toute la musique que vous avez achetée, par exemple, toutes les photos de votre famille, bien sûr, parce que la musique encore, bon, vous pouvez récupérer aujourd'hui, la plupart des services de musique vous permettent de redownloader, mais les photos de votre famille, c'est l'une des choses les plus importantes. Les documents d'études ou de travail que vous avez accumulés pendant des années, tout ça, c'est des choses que vous allez pouvoir récupérer facilement grâce à ce type de service. Alors, je disais, c'est payant. Effectivement, c'est payant. C'est pas insurmontable, hein. C'est, je crois, de l'ordre de $60 par an. Donc,
ouais, bon. Je crois que c'est ce que je paye. Mais moi, c'est pas le même service. Moi, c'est
Backblaze,
mais c'est similaire.
Il s'appelle comment?
Backblaze.
Backblaze. Et t'en es satisfait aussi?
Oui, parfait. D'accord. En fait, il y a un service en plus par rapport à Carbonite. C'est que si j'ai vraiment un pépin et si j'ai vraiment besoin de mes données tout de suite, je peux demander et il m'envoie des DVD ou un disque dur avec mes données.
Ah, je crois que c'est possible chez Carbonite aussi, mais il faut payer pour ça.
Ouais, mais ça ils le faisaient pas à l'époque et je pense qu'ils sont alignés ensuite.
Ok.
Après non. C'est des services qui sont similaires.
Ouais, c'est assez comparable. Bon, j'imagine qu'il y en a aussi d'autres. Hein. Ceux-là, c'est ceux qu'on connaît. Donc Carbonite et Backblaze.
Backblaze, ouais.
D'accord. Donc voilà, c'est disons que si vous faites un petit peu tout ça, a priori, vous devriez être plus ou moins tranquille, quoi. Encore une fois, on n'est pas à l'abri d'une catastrophe naturelle et d'une invasion d'aliens zombies, mais ça devrait être gérable. Bien sûr, c'est toujours chiant, mais vous devriez pouvoir récupérer, être raisonnablement protégé et avoir une chance raisonnable de récupérer vos données. Si vous êtes... Il y a d'autres services du type Dropbox qui sont un petit peu plus limités, qui servent à d'autres choses, mais qui peuvent être assez utiles aussi pour archiver les données vraiment essentielles.
Ouais, mais là, par contre, tu es obligé d'avoir la démarche, de dire je mets ça dans Dropbox parce que ça va être sauvegardé, et donc d'organiser tes habitudes de travail, ton mode de fonctionnement, pour dire je mets ce qui est important dans Dropbox.
Ouais, tout à fait, oui. T'as raison.
Et puis bon, après, on peut aussi se poser des questions sur Dropbox, sur...
La sécurité, le fait de partager les trucs. C'est pas la meilleure solution pour l'archivage, disons, c'est sûr.
Je pense qu'avec Carbonite et Backblaze notamment, il y a la possibilité d'encrypter ces données. C'est-à-dire qu'elles sont sauvegardées, mais...
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com, code program.
Quelqu'un qui arriverait à les récupérer ne pourrait pas forcément les
lire facilement.
Lire tel quel.
Tout à fait. Donc voilà. Alors, on résume. L'authentification à double facteur chez Google, notamment avec l'authentificateur Google. LastPass, LASTPASS, dernier passe, parce que l'idée c'est que c'est le dernier mot de passe que vous aurez besoin de retenir. Évidemment, c'est le mot de passe maître de tous vos mots de passe. Il va falloir en avoir un très sécurisé. Mais c'est LastPass pour le dernier mot de passe que vous retiendrez, et Carbonite pour archiver vos données. Je pense que avec tout ça, on a quand même fait le tour, et vous devriez avoir une bonne base de sécurité si vous faites tout ça. Moi, ouais. Je le recommande en tout cas à tout le monde. Première chose, enfin non, à vrai dire, ils sont tous aussi importants les uns que les autres. Donc voilà, vous êtes prévenus.
En fait, tout ça, ça me rappelle un proverbe turc.
Vas-y.
Quand la roue du char est brisée, beaucoup de gens vous diront par où il ne fallait pas passer.
Très très beau proverbe, effectivement. Ça s'applique parfaitement bien. Eh ben écoute, je te propose qu'on continue avec nos deux autres infos à retenir de l'épisode. Oui. On va aller un petit peu plus vite sur celle-ci parce qu'on a fait quand même une grande partie sécurité. La première, c'est le nouvel algorithme de Google qui pénalisera les sites qui sont victimes de nombreuses demandes de DMCA valides. DMCA, c'est le Digital Millennium Copyright Act. En gros, si vous êtes un ayant droit, vous avez le droit d'envoyer une demande de retrait à n'importe quel site si ce site héberge un contenu pour lequel vous avez les droits. T'as suivi un petit peu cette histoire, Guillaume, ou
pas, pas du tout. Celle-là est complètement passée sous mon radar.
Et
j'avais,
bah écoute,
j'avais vu d'autres choses, mais non.
C'est une histoire intéressante parce que c'est dans les subtilités du langage que c'est intéressant. Il y a deux choses à remarquer. D'une part, Google, on comprend bien qu'ils veulent faire plaisir. Enfin, on suppose qu'ils veulent faire plaisir aux ayants droit. Parce que il commence à rentrer dans le domaine fournissage. Ils deviennent fournisseurs de contenu. Voilà, le fournissonnement de contenu. Et ils travaillent avec le Play Store notamment, avec les fournisseurs de contenu et les ayants droit. Donc peut-être qu'ils veulent leur faire un petit peu plaisir. Ça fait très longtemps que ces fournisseurs de contenu demandent désespérément à Google de faire apparaître les liens qui ont des contenus piratés plus bas au moins, ou carrément de les supprimer de leurs résultats de recherche, parce qu'ils disent vous faites la promotion des choses qui sont piratées. Évidemment, Google dit bah non, nous on a un algorithme qui fait les choses comme ça. On enlève les liens si vous nous dites que ces liens-là mènent directement vers des choses piratées, mais il faut que vous nous fassiez la demande. Là, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que pour les sites qui sont victimes de très nombreuses demandes valides de retrait, les sites entiers vont voir leur page rank, donc leur validité,
leur placement.
Dans, ouais. Leur placement, tout à fait, leur placement dans les résultats de recherche, descendu. Donc au lieu de le voir apparaître en premier ou en deuxième, il sera peut-être en 5, 6e ou 7e. C'est un exemple.
Alors,
attends,
au hasard. Qu'est-ce qu'on entend par une demande de DMCA valide?
Alors exactement, c'est là que c'est intéressant. C'est ça qui est très très intéressant, et je vois que tu as l'esprit aussi aiguisé que moi, Guillaume, puisque a priori, la demande valide, ce n'est pas une demande qui est avérée, puisque le fait que ça soit avéré est très très long après. La demande valide, c'est la demande qui est bien remplie. Ce qui veut dire que Google va influencer les résultats de ses recherches, non pas en raison de décisions de justice, mais en raison de requêtes de retrait des ayants droit. Et là, on comprend bien que c'est quand même un petit peu plus... On ne va pas jouer les... Comment dire? Les... Je sais pas, les communistes, les fous furieux.
Je pense aux vierges effarouchées, mais non.
Non, les vierges effarouchées. On va pas dire c'est un scandale parce que Google bafoue la liberté d'expression. N'exagérons pas non plus, mais c'est clairement quelque chose de de suspect et de d'un petit peu de pas très net, quoi. Normalement, on va pas influencer des résultats de ce type-là sans décision de justice. On va pas, parce qu'il serait imaginable que quelqu'un, que des ayants droit disent, bah ce site-là, on l'aime pas trop. On va envoyer des tonnes de requêtes, donc il va descendre dans les classements. Alors
ça
que
c'est jamais
les requêtes
produit, Patrick. Jamais le MPIA ou le RIA a fait des demandes.
Injuste,
abusé de ses prérogatives.
Bah, c'est arrivé.
Ils ont accès
y a même...
direct à YouTube pour justement pour faire des demandes de takedown. Ils ont des quotas. Ce qui se passe, YouTube est obligé de composer avec une industrie qui est menacée, mais quand même très puissante, qui défend son modèle économique, même si on peut le trouver discutable ou archaïque.
Oui.
peut-être.
Bah, disons que
ils sont obligés de composer avec. Hein.
C'est sûr, c'est sûr. Il faut, on vit dans la réalité. Hein. Il faut faire avec. Là, c'est vrai que cette décision est un petit peu suspecte. En tout cas, d'autant plus que à peu près dans le même temps, il y a eu une histoire, un petit scandale qui est sorti parce que il y a une sorte de chasse aux sorcières un petit peu hystérique sur un site qui gérait des prêts de livres aux États-Unis, oui. Mais qui était un site complètement légal, qui a été pris pour cible par des auteurs qui pensaient y voir du contenu piraté, qui ont envoyé des tonnes de demandes de retrait, et le type qui était un brave type qui gérait ce site-là de près, hein, qui n'était pas du tout du contenu piraté, s'est vu assailli par les requêtes de DMCA et n'a même pas le temps d'y répondre. Ne peut pas le gérer, donc son site a priori va rester a été supprimé, enfin a été taken down, a été supprimé, et il va pas pouvoir le récupérer. Donc bon, ça peut être un petit peu dangereux. L'autre chose, c'est tu parlais de YouTube, et justement YouTube ne sera pas affecté par ce nouvel algorithme, et c'est quand même un petit peu fort de café parce que on a YouTube est l'un des sites où il y a le plus de demandes de suppression au monde.
Parce je me suis, chopé une DMCA sur une vidéo que j'avais postée. En plus, même pas publique sur YouTube.
Parce qu'il y a un système automatisé qui alerte les ayants droit de l'utilisation de leur propriété dans les clips vidéo. Ils ont automatisé de robots qui repèrent ces choses-là, qui analysent les vidéos et les flux audio, et qui repèrent ces choses-là, qui automatisent le système.
Ouais. Et en fait, là, il y a un truc que j'ai pas pu vérifier. C'est une vidéo que j'avais composée avec iMovie sur iPhone, justement. Et par défaut, il propose des musiques. Entre autres, c'était musique
libre de droit, ouais.
Et je pense que si on creuse, Apple a payé une licence pour que effectivement tu puisses l'utiliser dans tes vidéos. Et donc a priori, quand je la mets ensuite sur YouTube, en plus en privé, il n'y a pas de raison que je me chope un DMCA là-dessus.
Ah bah en plus le système n'est pas parfait, il est évident. Bon, c'est sans doute une exception, hein, ce genre de choses, un faux positif. Et en plus, une fois qu'on a eu cette requête, il faut bien comprendre le système. YouTube et Google et les autres hein, sont obligés par la loi de le supprimer, mais si vous contestez cette requête, la vidéo est remise en place immédiatement et il y a une procédure qui s'effectue ensuite. Donc vous pouvez tout à fait contester la chose très simplement, hein, vous cliquez sur un bouton dans l'interface Google YouTube et la vidéo est remise en place. Donc c'est pas non plus la Stasi, quoi. Mais pour en revenir au sujet, YouTube ne sera pas géré par cet algorithme et cette anomalie a été notée par Search Engine Land, qui est un site très connu dans le domaine. Et YouTube, Google a répondu en disant c'est YouTube et les autres sites très connus et bien connus comme n'étant pas des sites de méchants pirates qui auront un traitement, j'ai presque envie de dire un traitement de faveur, c'est évidemment pas le terme qu'ils ont utilisé, mais
ils seront épargnés.
Voilà, ils seront épargnés et Google n'est pas rentré dans les détails sur la méthode avec laquelle ils sélectionneront ceux qui font partie de la liste où on voit un petit peu les choses différemment ou pas. Ils ont dit que ça ne serait pas une liste blanche, ce qu'on appelait une liste blanche, donc une liste de sites autorisés, qu'ils avaient une autre méthode, mais ils ne sont pas rentrés dans les détails. Donc, bon, cette chose a fait aussi beaucoup de bruit ces derniers temps et on peut le comprendre, c'est un petit peu décevant, bizarre, inquiétant. Mais bon, on suivra l'évolution de la chose.
Si je creuse, je vais pouvoir avoir la réponse, mais je n'aurai pas le droit de la rendre publique.
Ah, d'accord. Bah, donc, merci. Tu nous teases, Guillaume. La news suivante et la dernière donc de cette partie des trois infos à retenir, c'est on va là encore passer un petit peu plus rapidement dessus. Le procès Apple versus Samsung continue avec son lot de mesquineries et de petites piques envoyées vers l'un ou l'autre de Judge Ko qui est irrité et énervé par les facéties de Samsung et d'Apple. L'une des choses qui a été quand même un petit peu forte de café, juste après qu'on en ait parlé dans l'épisode précédent, c'était à un moment, Samsung, il y avait certains documents dont on avait parlé sur l'histoire du Sony Style iPhone, donc l'iPhone qui aurait été designé selon des directives de Sony qu'un designer de Sony aurait donné au designer d'Apple, ces documents qui le prouveraient, entre guillemets, je mets des grosses guillemets parce que ce Sony Style était censé arriver en 2006 et il y avait déjà des prototypes d'iPhone qui s'appelaient le Purple en 2005 qui montraient bien que l'iPhone était designé de cette manière avant les idées de Sony. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que ces documents ont été interdits au procès. Donc, ces documents qui, selon Samsung,
pas interdits, en fait, pas recevables.
Pas recevable, oui. Enfin, ils pouvaient pas les présenter. Donc, Samsung n'avait pas le droit de présenter ces documents au jury, au jury dans le procès. Selon Samsung, les documents prouvent que Apple s'est inspiré de Sony, ce qui, selon mes recherches que j'ai fait, et ça semble assez clair, n'est pas vraiment le cas. Et c'est pour ça que les documents n'ont pas été admis. Eh bien, ces documents, Samsung les a publiés dans la presse. Avec une sorte de mini explication / plaidoyer qui expliquait pourquoi Apple s'était inspiré de ce Sony Style. C'est quand même un petit peu... Alors, les documents en question étaient publics. Ils existaient partout enfin, ils étaient déjà rendus publics. Donc, c'est pas comme s'ils avaient révélé de documents secrets. Mais c'est un petit peu le genre de technique qu'on voit dans les films, genre où il y a l'avocat un peu véreux qui fait le truc par derrière pour enfiler enfin vous voyez ce que je veux dire quoi. C'est le truc d'avocat véreux. D'ailleurs la juge était pas super contente. Et le problème c'est que bon, ça a pas fait énormément de bruit non plus, mais ça a contaminé, ce qu'on appelle contaminé, de potentiels jurés. Futur, parce que même si les résultats du procès vont arriver à la fin du mois, il y a fort à parier que, quel que soit le résultat, ils vont faire appel et que ça va continuer. Donc, même si les jurés d'aujourd'hui n'ont pas vu ces informations, les jurés qui seront appelés plus tard les auront peut-être vus. Bref, c'était pas hyper clean de la part de Samsung.
Ouais, mais en fait, toute cette histoire, ce procès Apple-Samsung, finalement, pour moi, c'est comme les feux de l'amour, quoi. Plus ça va, moins ça m'intéresse. Mais si tu rates un épisode, tu vois le suivant et t'as rien perdu, en fait.
Ouais, c'est un petit peu ça. Ouais,
c'est exactement ça. Bon, alors après, les justifications des uns et des autres, bon, c'est simplement des intérêts commerciaux, enfin même stratégiques. Hein. Mais par contre, c'est vrai que cette démarche de Samsung, bon, elle est un peu limite. J'ai l'impression qu'au niveau purement de leur staff juridique. Apple est quand même beaucoup plus carré, mais en même temps, ça fait des années qu'ils sont connus pour ça, hein, ils mettent les moyens. Alors que Samsung, ils commettent, d'un point de vue strictement technique, juridique, beaucoup plus d'erreurs.
Un petit
c'est
peu.
Pas comment ils vont s'en sortir.
On a un petit peu, disons qu'effectivement, l'impression qu'on a sur ces dernières semaines, c'est que Samsung, c'est pas une tendance super nette, mais Samsung est un petit peu en position un peu trop défensive, quoi. Ils font des petites erreurs, ils sont pas dans la meilleure des positions, on va dire.
En même temps, la réalité, c'est qu'en fait, c'est pas un procès, mais c'est multiples de procès.
Bien sûr.
Certains à l'initiative d'Apple, l'autre à l'initiative de Samsung, un peu partout dans le monde, ils s'attaquent.
Non, là, on parle de celui qui est effectivement en Californie, ce qui est le gros qui vient de commencer, quoi. Mais t'as raison, il y en a partout et il y en a d'autres où les choses sont différentes. Il y avait aussi un document qui est sorti où Samsung a étudié dans les moindres détails l'iPhone et comparé au Galaxy S. Il y avait d'un côté l'écran de l'iPhone, de l'autre l'écran du Galaxy S sur 132 pages avec ce qui marchait sur l'iPhone et ce qui marchait pas sur le Galaxy S. Les raisons pour lesquelles ça marchait et ça marchait pas. Alors, c'est vrai que ça fait un petit peu comparaison, genre comment rendre le Galaxy S2 plus mieux, on va dire. Mais en même temps, ce que beaucoup de gens ont dit, alors Apple a présenté ce document en disant, voilà, regardez, hop, ils ont copié l'iPhone. Bon, d'une certaine manière, je comprends comment on peut le voir comme ça, mais en même temps, cet aspect spécifique ne devrait pas vraiment entrer en ligne de compte. Ce qui devrait entrer en ligne de compte, c'est comment fonctionne le Galaxy S2. si le S2 est...
Et sur le document-là,
excuse-moi, je veux juste finir sur ce sujet pour dire que il faut, à la limite, tous les constructeurs auraient dû faire ça. Quand l'iPhone est sorti, c'était clairement une nouveauté révolutionnaire dans le monde des téléphones portables. Et tous les constructeurs, au lieu de faire comme Nokia et RIM et de se dire wow, « Waouh, on s'en fout, machin », ils auraient tous dû étudier l'iPhone et essayer, non pas de copier, mais au moins de s'en inspirer. Ça, pour moi, c'est très très clair. Donc ce document est plus à mettre au crédit de Samsung qu'autre chose. Et bon, pardon Guillaume, tu disais quelque chose.
Je vais faire ma réponse de Normand, oui mais non. Ce qui se passe, c'est que ce document-là, si on le prend comme un document interne de marketing, où on fait une étude de marché, on se positionne par un propre produit, très bien, il n'y a pas de problème. Ce qu'il y a, c'est que dans ce document-là, il y a des directives qui sont données, des commentaires qui sont, il faut faire comme ci, il faut comme ça, pour se rapprocher de l'iPhone. C'est-à-dire qu'il y a une orientation dans les commentaires qui accompagnent cette étude, cette analyse sur du Galaxy S par rapport à l'iPhone, en disant, ben voilà, pour qu'on marche, ben il faut qu'on soit comme l'iPhone. C'est ici, il faut que les icônes soient comme ça. Là, nos icônes, elles sont moches, elles n'ont pas le beau reflet. Il faut prendre le même technique que l'iPhone, etc.
Ouais.
C'est ça qui est plus gênant, ne serait-ce qu'en termes de formulation. Ça influe à la lecture du document que l'idée était quand même de faire quelque chose qui soit comme l'iPhone.
Disons que effectivement, contrairement, enfin l'exemple qu'on a qui est assez flagrant, c'est l'exemple de Microsoft qui a fait une interface qui partait
qui ne s'appelle pas Metro,
qui ne s'appelle plus Metro effectivement, l'interface Metro ne s'appelle plus Metro, mais qui a fait une interface qui arrivait au même résultat de simplification que l'iPhone, mais qui ne prenait pas les mêmes chemins pour y arriver, qui a pensé vraiment une interface différente. C'est vrai que Android en général et peut-être Samsung avec les Galaxy, la série des Galaxy, c'est peut-être inspiré un petit peu plus directement de l'iPhone. Il y a une chose qui était intéressante dans les différentes analyses que j'ai lues, c'était que le problème essentiel de Samsung dans ce procès, c'est de faire comprendre aux jurés que l'inspiration n'est pas illégale. C'est la copie qui est illégale. C'est-à-dire que le fait de s'inspirer d'un design, c'est complètement légal et c'est même ce que font tous les membres de cette industrie. Je veux dire, ils s'inspirent de ce qu'a fait et Apple les premiers. Hein, ils ont.
C'est beau comme du Steve Jobs. Oui.
Bah c'est, non, mais c'est ce que dit Steve Jobs. C'est ce que disait Steve Jobs. Il a très clairement dit et famously, il a dit il y a très longtemps, on n'a aucune honte dans le fait d'avouer qu'on vole les meilleures idées du monde. Donc effectivement, l'inspiration est très clair dans toute cette industrie. Le problème, c'est de savoir si oui ou non ils ont copié et non pas simplement été inspirés par Apple. Bon, ça, la réponse, encore une fois, on le disait la dernière fois, elle sera obtenue au terme du procès. Et comme tu me le disais très justement dans la préparation, Guillaume, c'est une question de loi, c'est une question légale et la décision se prendra dans le tribunal.
Oui. Juste avant, j'écoutais justement le dernier upload avec Cédric Bonnet qui faisait une sortie qui était à bout.
Très énervé,
les commentaires, les réactions
de fanboy
sur ce problème. Ce n'est pas notre problème. C'est un problème purement industriel et entre deux entreprises et c'est purement un prétexte. Et nous, en tant que consommateurs, de toute façon, on n'y gagnera rien, mais on ne perdra rien non plus.
Bah oui et non. Hein. Tu sais que si jamais Apple gagne ce procès, il est possible qu'au minimum, Samsung ait moins d'encouragement pour faire ce type d'appareil. Et les téléphones Galaxy S sont reconnus comme étant les meilleurs Android. Peut-être qu'ils ne pourront plus vendre leur Galaxy S même. Ça peut avoir des conséquences pour les consommateurs aussi.
Bien sûr que ça aura des conséquences à ce niveau-là. Maintenant, un téléphone Samsung, une grande partie, enfin, il y a quoi? Il y a $15 qui sont versés à Microsoft pour des brevets. Apple va en demander $20 ou $30. Ça va réduire les marges de Samsung qui est actuellement le seul
à avoir des marges comme Apple.
À bénéfice à part
Apple, oui.
Par Apple. Oui, mais ça, c'est le système capitaliste et du jeu.
C'est les règles du jeu, oui, c'est sûr.
Il joue un jeu qui pour nous est incompréhensible, mais qui est en fonction des règles qui sont acceptées par toute l'industrie. Mmh. Mais c'est pas pour rien que dans beaucoup de podcasts tech que nous écoutons, Léo Laporte par exemple, n'arrête pas de râler sur justement tout ce problème des patents qui heureusement n'est pas aussi défini, aussi développé en Europe, parce que ça, c'est, finalement c'est plus un frein à l'innovation qu'autre chose. Enfin, mmh.
Justement, à propos de licence, on a appris aussi que Apple avait proposé à Samsung une licence pour les brevets qu'il détient. Donc Apple vendrait une licence à Samsung pour $30 par smartphone et $40 par tablette. C'est quand même très cher, hein, pour les brevets en question. Et il proposait une réduction de moins 20% si Samsung également vendait la licence de leur brevet à Apple.
Ouais,
donc,
croisée,
il y a eu
ouais.
des négociations qui ont échoué. Hein, mais Apple a révélé qu'ils avaient essayé de discuter. À mon avis, effectivement, $30 par smartphone et $40 par tablette, c'est horriblement cher. C'est vraiment très très cher. Donc bon, c'était un petit peu on a proposé, mais c'est pas raisonnable. D'un autre côté, on a appris que Samsung n'aurait vendu que 37 000 tablettes au deuxième trimestre aux États-Unis, quand Apple en a vendu 5,7 millions. Et quand on a les chiffres qu'a annoncé Samsung pour ses ventes monde du Galaxy Tab, qui était de l'ordre de 1 ou 2 millions, je crois, depuis qu'il est sorti en fin 2011, disons que 37 000 tablettes au deuxième trimestre aux US, c'est un petit peu bizarre d'arriver à 2 millions sur le monde depuis 6 mois, quoi. C'est bizarre. À mon avis, il parle plus de sell-in, qui est les ventes au magasin, mais qui sont peut-être encore dans les magasins, que de sell-through, dont parle Apple, qui est les ventes aux utilisateurs finaux qui ont effectivement payé à Apple pour acheter l'appareil. Mmh. Ouais. Bon, bref, si cette petite analyse, ce petit résumé vous a paru orienté Apple... D'une part, évidemment, c'est pas pour une question de préférence personnelle. Hein. Franchement, moi, je m'en fous que Apple ou Samsung gagnent l'histoire. Je préfère Apple, mais c'est personnel. D'ailleurs, entre parenthèses, j'utilise un petit peu plus le Mac depuis quelques temps. Autant j'aime beaucoup mon iPhone et mon iPad, autant le Mac, franchement, je ne lui trouve... J'ai beau chercher, j'essaye. Hein. Je me dis, ça serait sympa d'avoir un système unifié. Je trouve pas énormément d'avantages par rapport à Windows 7. Quoi. Il a des trucs sympas, des trucs moins sympas. Il y a des trucs que je préfère sur Windows. Donc, bon. Bref, c'était une petite digression. On verra le résultat du procès. Dans pas si longtemps que ça, hein. Normalement, d'ici deux semaines et demie, on aura les résultats. Ça devrait être intéressant à suivre. On fait une petite pause pour passer par la boutique NoWatch. Vous savez que c'est notre sponsor, la boutique NoWatch, ou plutôt le fanshop NoWatch, sur nowatch.net/fanshop. Vous pouvez y trouver toutes sortes de goodies gérés par NoWatch. Donc, si vous voulez nous filer un coup de main, c'est encore mieux de passer par le fanshop que l'ancienne boutique, puisqu'on gère ça nous-mêmes. Et donc, ça veut dire qu'on les fait fabriquer nous-mêmes. Et donc, ça veut dire qu'on récupère plus de sous-sous quand vous achetez quelque chose sur cette boutique. Et en plus, comme on le dit depuis le début de la Comic-Con, on a désormais des t-shirts disponibles. Avant, il y avait les écussons, les décalcomanies, etc. Maintenant, il y a aussi des t-shirts en peau de fesse d'ange. C'est le terme officiel. Sont les t-shirts en flocage, qui sont très très beaux, que les chérubins sont dépecés à la main dans le QG de NoWatch. Donc, si vous voulez nous faire un petit coucou avec un petit chèque au bout et que vous aimez les podcasts et que vous voulez nous filer un coup de main et qu'en plus, vous voulez être extrêmement séduisant pour la rentrée, vous pouvez passer sur le fanshop NoWatch. Tout est accessible depuis NoWatch.net. Et on va conclure avec nos news et rumeurs sur lesquelles on passe un petit peu plus rapidement là encore que pour les trois infos à retenir. Je vais commencer avec une société française qui s'appelle Early Flicker qui a déposé les noms et le logo d'Anonymous.
Bonne idée.
Alors ça franchement dans le genre je fais une connerie. Je pense que c'est assez bien placé hein, dans l'algorithme Google des conneries à faire. Je pense que celui-là, il aurait un très bon page rank. Évidemment, Anonymous n'est pas content. Et c'est, je sais pas, même pas, ça fait quelques jours que ça s'est passé, peut-être 10 jours même. Je sais pas ce qui s'est passé avec Early Flicker, mais à mon avis, ils doivent pas être en très bon état.
Ouais, bon, je sais pas, il y a peut-être des DDoS et un peu de hack. Mais...
Ouais, bah oui, c'est ça. Disons que énerver les Anonymous, c'est pas forcément une bonne idée, quoi.
Je crois que Léo Laporte l'avait fait une fois en direct dans un de ses shows.
Ouais,
il avait très très vite senti la.
Disons que oui, entre parenthèses, c'est des gens qui font des t-shirts et des choses comme ça, hein, Early Flicker. Ouais. Disons que Léo Laporte, à la limite, bon, c'est un mec qui est connu dans le domaine. Je pense qu'il se ferait moins harceler. Oui, enfin, les gens pourraient le faire chier, oui. Bon, bref. autre info, Google nettoie son App Store. Vous savez, le Play Store va désormais avoir des règles un petit peu plus strictes. Ils vont supprimer les applications qui sont clairement des copies pirates d'autres applications, qui ont des processus de paiement un petit peu non sécurisés, qui ont des exotiques, ou qui ne respectent pas les. Enfin, ils vont ajouter des règles de spam, etc., etc. Donc, ça me fait un petit peu sourire parce que entre le modèle entièrement ouvert de du Google Store, on parle des appareils mobiles, hein, de Android bien sûr, principalement, entre l'entièrement ouvert du store Google et le super fermé de d'Apple, il y avait beaucoup de gens qui disaient Apple, oh, c'est horrible parce que c'est trop fermé. Voilà, le super ouvert, c'est bien. Et ben, on se rend compte finalement que on peut pas non plus faire complètement, complètement ouvert parce que, comme on dit dans certains films, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Mm-hmm. Et donc, ils se rendent compte chez Google aussi que il faut essayer de faire un petit peu attention. Et moi, je trouve ça très bien parce que c'est les utilisateurs qui, au final, vont continuer à en profiter. On restera dans un système beaucoup plus ouvert que celui d'Apple. Évidemment et heureusement, il faut une alternative à la Gestapo. Je sais pas pourquoi j'ai des thèmes très Deuxième Guerre mondiale aujourd'hui. À la Gestapo d'Apple, qui convient à certains, mais pas à tout le monde. Mais il faut quand même un tout petit peu la police de proximité, on va dire. Donc, moi, je trouve ça bien.
Un minimum.
Un minimum, voilà. Une autre news intéressante, Apple est en train de supprimer l'app YouTube de la prochaine version de iOS. C'est-à-dire que iOS 6 n'aura plus l'app YouTube, simplement parce que la licence, l'accord entre Apple et Google est arrivé à terme et que ni l'un ni l'autre n'ont souhaité, d'après ce qu'on a compris, le renouveler. Et c'est bon pour les deux, d'une part parce que Apple veut se débarrasser de Google, des traces de Google, ces horreurs qui copient l'iPhone avec Android.
Et
c'était, voilà, c'est ça. C'était la dernière trace maintenant que les cartes seront aussi gérées par Apple avec iOS 6. Et c'est très bien pour Google aussi parce qu'ils vont pouvoir enfin avoir une application dédiée et gérée par eux sur iOS et qui en plus va pouvoir monétiser les vidéos de tout le monde. On sait que de plus en plus de gens regardent les vidéos sur YouTube sur des plateformes mobiles et c'est un pourcentage énorme, hein, genre c'est de l'ordre de 30 ou 40%, c'est monstrueux comme pourcentage. Mais avec iOS, évidemment, on ne pouvait pas monétiser parce qu'il n'y avait que l'application par défaut qui ne permettait pas le pré-roll de vidéos, qui ne permettait pas l'affichage des pubs en bas. Donc pour tous les... pour Google et les fournisseurs de contenu, ça va être une bonne nouvelle qui vont pouvoir faire un petit peu plus d'argent et gérer du meilleur contenu. Bien sûr, pour les utilisateurs finaux, ça va être un petit peu plus pénible parce que ils pouvaient avoir accès à cette application par défaut sur iOS qui leur permettait de regarder les vidéos sans pub. Mais moi, je fais le pari que l'amélioration de l'application qui commençait vraiment à dater sur iOS compensera largement et Google pourra gérer cette application au jour le jour et l'améliorer régulièrement. Et ça sera une utilisation plus agréable.
De toute façon, le divorce entre Apple et Google qui était voulu par Steve Jobs, hein, et dont les traces sont aussi et surtout dans le procès contre Samsung, bah ce divorce il est en train de se
consommer.
Se faire.
Ouais.
Et je pense que de toute façon c'est bien pour tout le monde. Hein.
Bah là en l'occurrence c'est sûr que l'histoire de YouTube ça sera a priori une bonne chose. Moi au début je me suis dit oula Google doit faire la gueule machin, mais en fait non, au contraire ils préfèrent largement avoir une app téléchargé par des gens qui vont l'utiliser et qui soient très performantes et qui leur rapportent de l'argent, plutôt que d'avoir l'app sur tous les appareils.
Mais qui ne contrôle pas et contrôlait pas cette app.
Voilà. Surtout qu'il faut se souvenir que à l'époque où l'iPhone est sorti, c'était en 2006, YouTube n'était pas du tout dans la position dans laquelle ils sont aujourd'hui. Hein. C'est il y a très longtemps. YouTube avait à peine quelques années, 2 ou 3 ans, et ils venaient ils commençaient à gagner en légitimité, mais ils avaient besoin d'une énorme exposition. Et ça leur a permis de gagner ces parts de marché. Maintenant, il faut qu'ils monétisent ces parts de marché. Ils le font déjà très bien, mais ça leur permettra de le faire plus. T'as suivi l'histoire de app.net et le scandale qu'a fait Dalton Cadwell, son créateur, avec les plateformes de réseaux sociaux comme
alors,
Facebook.
Très franchement, j'ai vu sur TechMeme apparaître 2-3 articles dessus. Et en bon professionnel, j'ai regardé l'entête des articles. Il n'y avait, ouais. avait pas un résumé parlant. Tu sais, il y a un terme pour ça. Quand on t'explique en trois paragraphes l'histoire, oui. Et donc ce que j'ai vu, c'est qu'ils veulent faire un nouveau réseau social, un concurrent de Twitter, qu'ils ont une sorte de Kickstarter et qu'ils ont gagné $1 million de dollars.
C'est ça.
Et pour l'instant, je dis ce what parce que j'ai rien compris du.
Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que d'une part, Dalton Cadwell, qui crée App.net, qui était un service de marketing pour les applications, de marketing pour les développeurs, pardon, a complètement transformé sa société. Il l'a transformé en une sorte de Twitter privé. Mais avant ça, il a aussi fait un scandale avec Facebook en disant qu'il avait été reçu par Facebook qui lui disait, bon, ton système de marketing machin là, de promotion des applications et des pour les développeurs, alors t'as le choix, soit on te rachète et voilà, soit on va te détruire. Et il a fait tout un email scandaleux qui a fait beaucoup de bruit. Effectivement, c'est sans doute pas des pratiques très dignes et très nobles. Le truc, c'est que ça lui a fait tellement de pub que du coup, je me demande si c'était pas pour faire un peu de pub. Je doute pas que ça soit passé, hein. Je suis sûr que ça s'est passé, mais il a aussi beaucoup critiqué Twitter. Et juste derrière, il lance ce système, ce nouveau système de app.net, qui est donc un changement complet pour sa société, qui désormais voudra être un Twitter payant. C'est-à-dire qu'il dit « Twitter n'a pas tenu sa promesse ». Twitter aurait dû être un système qui se concentre sur les utilisateurs et en l'occurrence, Twitter et Facebook sont des systèmes où l'utilisateur est le produit. Parce que comme ils sont gratuits, c'est un truc qu'on répète souvent sur NoWatch.net et dans nos différents podcasts, si un produit est gratuit, le produit, c'est vous. Parce que il faut que les sociétés fassent de l'argent en faisant de la pub, en vendant finalement vos données aux annonceurs. Bien sûr, ils ne vendent pas vos données directement, mais ils vont dire, on a un groupe de gens qui ont entre 15 ans et 25 ans, ils vont être intéressés par tel manga. Donc, si quelqu'un veut faire de la pub pour son manga, ils peuvent targeter les gens qui seront intéressés. Bon, ça, c'est le système pour Facebook et Twitter. Dalton Cadwell dit, ces contraintes financières vous obligent à servir les annonceurs plus que les utilisateurs. Donc moi, je vais faire le pari de proposer un Twitter payant, et il l'a fait avec ce système simili Kickstarter, en proposant à tout le monde de fonder, de donner de l'argent au projet. Et il a atteint finalement, au début, on n'était pas sûr que ça marche, mais finalement, il a atteint les 500 000, donc le projet va se faire. Et le projet est, comme je le disais, payant à $50 par an pour avoir accès au réseau qui est une sorte de Twitter, finalement, qui est une copie de Twitter.
Mmh. Ouais.
Le problème, c'est que, enfin, il y a un million de problèmes sur lesquels dont on pourrait parler pendant des heures, mais si on a déjà Twitter, moi, j'ai pas l'impression que les gens se plaignent horriblement des problèmes de Twitter. Alors, je suis pas convaincu que un Twitter payant attire suffisamment de monde pour contrer la masse critique qu'on a aujourd'hui avec Twitter, qui est un réseau social monstrueux, comme on en parlait la dernière fois. Donc, je sais pas. En tout cas, il a eu son argent et il lance le truc. Donc, on verra.
Ouais, enfin, moi justement, quand j'ai parcouru rapidement l'article, je voyais pas de différenciateur.
Le seul différenciateur, c'est la philosophie qui est, c'est les utilisateurs qui payent. Donc nous, on va développer un système concentre sur les utilisateurs.
Oui, mais en termes de fonctionnalité, ça offre quoi de plus? C'est ça qui est pas clair. Là actuellement, il y a Facebook, il y a Google+, il y a Twitter, il y a tous ces trucs là. On essaye de... Enfin, on va sur ces réseaux parce qu'il y a des gens, et il y a des gens parce que c'est gratuit. Maintenant, avoir un réseau purement fermé par invitation ou parce qu'il y a un péage à l'entrée, ouais. Quel service actuellement fonctionne sur ce modèle-là avec du succès? Bon, éventuellement, tu peux avoir LinkedIn où tu as... mais c'est un freemium, c'est-à-dire que tu as toute une interface, des tas de fonctionnalités qui sont gratuites, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une grande partie des utilisateurs de LinkedIn. Et puis après, il y a des fonctionnalités avancées qui sont payantes, mais là, ça fait sens.
Ouais.
Là, le principe, enfin, ce que propose AppNet.
Et puis surtout,
pas clair.
Le problème, c'est que l'une des choses dont parlait un journaliste connu qui s'appelle MJ Sigler, c'est que c'est un petit peu la phrase de Batman, soit on meurt en héros, soit on vit suffisamment longtemps pour devenir un méchant. Et le truc, c'est que toutes ces sociétés ne sont pas Twitter, Facebook, etc. Et Google et Apple et tout le monde, ils ont des problèmes qui viennent de leur taille et de leur importance, etc. Et ces problèmes sont inévitables quand on arrive à ce genre de taille. Alors, peut-être que si c'est un truc payant, ça réussira à éviter certains de ces problèmes, mais il y aura quand même des problèmes qui arriveront. Si App.net réussit à grossir autant que, je sais pas, à 10% même de Twitter, ils auront énormément de problèmes à gérer qui font qu'ils auront certainement des choix à faire qui ne plairont pas énormément aux utilisateurs. Donc, c'est un petit peu une vue, c'est un peu une vue optimiste et idéaliste de la chose. En même temps, c'est le genre de projet sur lesquels je me dis, ouais, bon, ils sont gentils, c'est un petit peu la fête dans la forêt avec les fleurs. Mais dans la réalité, ça se passe pas comme ça. Mais le truc, c'est que pour un projet comme Linux, par exemple, c'est exactement ce que j'aurais dit. J'aurais dit, ouais, bon, les gars, vous êtes gentils à faire votre projet de système d'exploitation à 3000 personnes éparpillées dans le monde et que personne se connaît. Mais bon, revenons sur Terre. Et en l'occurrence, Linux marche plus que super bien. C'est un succès
interplanétaire. Pour pouvoir développer dans Linux.
Pardon?
Ce que je veux dire, c'est que
c'est un projet qui paraît un peu fou, mais qui fonctionne. Oui. Et bon.
Là, de App.net, moi, il y a un petit discours qui est, qui me paraît creux. Moi, je vois pas de vision. Il te raconte pas une histoire, il te donne pas envie, je sais pas.
Bah écoute, aujourd'hui, la preuve que ça donne un petit peu envie quand même, c'est qu'ils sont à 750 000 dollars de levée sur les 500 000 dont ils avaient besoin. Donc ça veut dire qu'il y a un public. Il y a des gens qui sont demandeurs. En même temps, c'est 11 000 personnes. Donc si c'est un réseau social pour 11 000 personnes.
Ouais, j'en connais un comme ça s'appelle le Small World. J'ai été là-dessus et j'y vais jamais.
Ouais, mais pareil, Small World, moi j'y suis depuis des années. C'est un truc genre, pouette, je me la pète. C'est pour les gens exceptionnels et on vous. C'est n'importe quoi.
Enfin, bon, hipster.
Ouais, c'est un peu ça. Non, c'est pour les gens riches, Small World. Mm-hmm. C'est pour les gens qui ne sont pas comme les autres, qui n'ont pas les mêmes valeurs, tu vois. Bref, 11 000 personnes, un réseau social pour 11 000 personnes, ça fait pas beaucoup, mais peut-être que ces 11 000 personnes seront très contentes d'avoir leur réseau social un petit peu. Et entre parenthèses, moi j'y suis, sur app.net, j'ai participé au truc pour voir ce que ça donnait. Mais bon, bref, on verra, on suivra la chose et on suivra ce que ça donne. Je vais faire l'impasse sur les news suivantes. Je vais juste dire que Square arrive chez Starbucks. Ça pourrait être intéressant. Starbucks a fait un deal avec Square pour qu'il soit présent partout. Vous savez, ces systèmes de paiement un petit peu particuliers dont on a parlé plusieurs fois.
Même en France ?
Non, uniquement aux États-Unis. Steam, la plateforme de jeux de Valve, va vous permettre d'acheter autre chose que des jeux. Il y a des applications au-delà des jeux. On avait entendu des rumeurs à ce propos il y a un certain temps, mais ça va devenir une sorte de store, un petit peu comme le Mac Store ou l'App Store ou ce genre de choses, où il y aura des applications aussi. Donc ça peut être intéressant parce qu'elle connaît beaucoup de succès pour les jeux et beaucoup de joueurs l'utilisent régulièrement. Il y avait une interview de Kim.com, vous savez, le fameux fondateur de Mega Upload qui a été arrêté, qui était très surprenante, vraiment très surprenante, parce que il était incroyablement posé et intelligent. Moi, je le voyais un petit peu comme une sorte de clown, et il est très convaincant dans son interview. C'est une interview qu'il a donnée à une chaîne australienne qui dure une vingtaine de minutes. Allez la chercher sur YouTube. Franchement, si le sujet vous intéresse, il est c'est plus qu'une histoire de est-ce qu'il est un pirate ou pas. C'est quelqu'un qui est vraiment intelligent et qui a l'air de d'avoir des choses à dire. J'étais vraiment surpris, hein, j'avais pas du tout cette image de lui. Et il parle même de son image, c'est une très bonne interview. Et il dit que son service révolutionnaire Megabox arrivera cette année, malgré le fait que toutes ses propriétés étaient saisies par les autorités américano-néo-zélandaises. On a appris que Apple pourrait racheter, enfin c'est une rumeur, The Fancy, c'est un site un petit peu comme Pinterest, mais ça qui met l'accent sur le commerce électronique d'objets physiques, et ça pourrait, si ça se concrétise, vouloir dire que Apple aurait peut-être l'intention d'entrer dans le commerce d'objets physiques. C'est qu'une rumeur pour le moment, donc on sait pas vraiment, il faut pas le prendre pour argent comptant. Et enfin, Android est partout. Nikon sortira bientôt un appareil photo sous Android avec un accès au Play Store. Donc, j'imagine que ça sera pas forcément pour utiliser les applications classiques du Play Store, mais peut-être pour utiliser des applications spécifiquement conçues pour cet appareil photo. Ça pourrait être un truc intéressant pour développer des applications pour un appareil photo un petit peu de meilleure qualité que nos petits appareils photo pourris de téléphone portable. Enfin, pourris oui et non, hein. Il y en a qui sont pas trop mal, mais ça pourrait être une idée, en tout cas que j'ai trouvé intéressante, l'idée de se dire bah sur un appareil photo, on va donner accès à un App Store pour lui donner des fonctionnalités étendues.
Ouais, bah c'est pas complètement idiot. Enfin, là il y avait déjà pas mal de caméras qui proposaient en standard de poser directement sur YouTube par exemple, un appareil photo qui permettrait de mettre directement sur Tumblr, voire sur là tu aurais le choix de ton application. Donc bah je le mets sur Paz, je le mets sur Instagram en mettant des filtres qui niquent bien la qualité de mon appareil photo
par exemple,
éventuellement si l'appareil photo fait des vidéos, hop, je les mets sur YouTube ou un autre format, enfin bref, ça fait sens. Ouais
c'est intéressant, c'est une utilisation intéressante de cette plateforme ouverte qu'est Android.
C'est la convergence de tous les médias, de tous nos appareils.
Ouais, exactement. Bientôt on aura, bientôt on n'aura qu'un seul truc qui fait appareil photo et téléphone.
On aura le
bidule
qui fera tout.
Bon, bah c'est sur cette remarque intelligente qu'on va conclure notre épisode. Avant de nous quitter, finalement, tu vois, on est toujours à 1h30. Hein. J'arrive jamais à. Je voulais faire genre 45 minutes, mais bon, au moins on a fait une grosse partie.
Moi, j'essaie pas
de
trop t'interrompre. Hein.
C'est vrai. Non, mais j'ai apprécié parce que j'ai beaucoup parlé aussi. Donc, merci Guillaume. Justement, s'il y a des gens qui veulent un petit peu plus entendre ce que tu as à dire, où peuvent-ils te retrouver sur Twitter et sur NoWatch.net et peut-être ailleurs?
Alors le plus simple, c'est quand même d'écouter La Voix dans la tête. Donc vous pouvez le retrouver sur le site lvdlt.com, sur iTunes et surtout sur nowatch.net. Si vous voulez me suivre sur Twitter, ben, c'est mon pseudo tout simple, PopGoesTheWZA, PopGoesTheWZA. Mais le plus simple, c'est quand même de suivre La Voix dans la tête, qui paraît à peu près toutes les deux semaines, quand on peut.
Qui est l'émission sur la culture et la tech.
Voilà.
Est-ce que tu vas me trouver super méchant si je dis c'est un petit peu l'émission des hipsters de No Watch?
Bah écoute, déjà on se fait traiter pas mal de bobos parisiens. Essaye de pas être trop bobo, justement, pas trop parisien. Pour s'ouvrir. D'ailleurs, les derniers numéros, on parlait de Londres. Là, dans le prochain, celui que je suis en train de monter, on va parler de la Russie, des États-Unis. Enfin, on essaie d'ouvrir des sujets. Généralement, on parle de sujets tech, mais si ça a vraiment intérêt et on ne fait pas de l'actualité, c'est plutôt des thématiques. Et puis sinon, c'est plutôt un peu le lifestyle, le cinéma, l'art, la culture, un peu sous ses formes, sans se prendre trop au sérieux. En étant quand même avec un peu de maturité, mais
et la un bonne petit peur. Peu quand même. C'est vraiment le style. Je crois que c'est Jérôme Kainborg qui le décrivait comme ça. C'est un petit peu la radio de nuit. C'est très reposant, c'est zen. C'est un style qu'on retrouve pas souvent dans les podcasts en général et qui est vraiment différent et appréciable pour les gens qui aiment ce genre de truc. C'est agréable, c'est doux, ça passe comme du jazz, quoi. Donc,
ce qui est le plus apprécié, a priori, c'est aussi les voix de Séverine et Léna. Enfin, un podcast. Évidemment. Où il y a beaucoup de femmes qui parlent.
Bon, bah écoute, donc merci beaucoup Guillaume pour cette participation. Je rappelle que si vous n'avez pas retenu ou pas noté le compte Twitter de Guillaume, vous pouvez le retrouver ainsi que les autres infos comme le podcast, le lien vers le podcast dans les notes de l'émission présentement présentée. C'est sur nowatch.net comme tous les autres podcasts que vous appréciez. On va se retrouver dans 2 semaines pour un prochain épisode. Et d'ici là, j'espère que mon dos aura survécu. Merci à tous et merci Guillaume d'avoir été là.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.